Alors, dans notre relation avec Dieu, la confiance et l'obéissance sont deux composantes d'égale importance. La confiance, c'est se reposer en Dieu pour lui permettre d'avoir le contrôle de nos vies, et puis voilà, on lui fait confiance en toute chose. On place notre vie entre ses mains. L'obéissance, c'est faire ce qu'il ordonne. Alors ce matin, ce que je voulais davantage évoquer avec vous ce matin, justement, c'était ce second point, l'obéissance à Dieu. Alors pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15. Donc dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 15, les versets 1 à 23. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire « Saül est allé à Carmel ». Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. » Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Je vais m'arrêter là, dans la lecture. Je vais le reprendre avec vous. Alors ce passage, si je reviens au début justement, aux trois premiers versets, il commence avec Samuel que nous voyons s'adresser à Saül. Et Samuel s'adresse à lui d'une manière un peu solennelle pour lui apporter le message que Dieu a pour lui. Samuel était un prophète et donc Dieu lui parlait et Samuel retransmettait ensuite la parole de l'Éternel. Mais plus encore que lui apporter donc ce message, Samuel fait comprendre à Saül qu'il doit l'écouter. Il lui rappelle ce que Dieu a fait pour lui, et que si aujourd'hui il est roi, c'est grâce à Dieu. Et pour cette raison, Dieu s'attend désormais à ce qu'il utilise ce pouvoir donné pour lui. Dieu a honoré Saül, et maintenant Saül doit chercher à rendre honneur à Dieu en retour, notamment en lui obéissant et en appliquant la justice de Dieu. Et c'est cela qui lui est demandé ici. L'ordre de Dieu à Saül, en effet, est le suivant. Qu'il voue par l'interdit Amalek, c'est-à-dire qu'il détruise toute la ville, ses habitants, hommes, femmes, enfants, mais aussi le bétail, ou encore même l'or, l'argent, les biens matériaux. Cet ordre peut sembler très cruel, et pourrait même donner le sentiment qu'il est impossible d'y obéir. D'autant que Dieu n'ordonnerait rien de tel aujourd'hui, alors que nous sommes dans une période où il dispense gratuitement sa grâce à ceux qu'il aime. Mais alors pourquoi un Dieu d'amour demande-t-il cela ? Pour le comprendre, il faut revenir à un peu d'histoire. Et le verset 2 nous dit d'ailleurs, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » L'histoire entre Dieu et les Amalécites date en effet de l'époque où Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, et à ce moment-là, les Amalécites leur ont causé de grands torts, ce qu'on peut lire dans le livre de Deutéronome, par exemple, au chapitre 25, versets 17 et 18. « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi, par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Et en s'adressant à Saül, aujourd'hui, Dieu réclame maintenant l'application de la menace aussi qu'il a prononcée dans Exode au chapitre 17, verset 14, « J'effacerai de dessous le ciel le souvenir d'Amalek. » Ou encore au verset 16 du même chapitre, il dit « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Tout péché s'oppose à la souveraineté, à la sainteté, à la bonté de Dieu et à sa juste loi. Et l'iniquité d'Amalek était telle, justement, que Dieu était irrité, à juste titre, et dans son juste jugement, il se devait alors de les punir. Et maintenant qu'Israël avait un roi, Dieu a demandé à ce roi, Saül, d'exécuter sa justice. Et bien que le châtiment fût dur, la destruction de ce peuple était bien le seul juste remède. Mais alors quelle a été la réponse et la mise en application de cette sentence divine par Saül ? Ça, on peut le lire des versets 4 à 9. Bien, ces versets nous montrent un homme qui, en tout cas au début, obéit. Un homme qui prépare son armée, qui avance vers la ville, qui tient une embuscade, en laissant s'enfuir au passage les Kéniens qui étaient un peuple non concerné par ce jugement, qui, eux, qui au contraire ont eu de la bonté justement pour tous les enfants d'Israël. Dieu donne même une victoire éclatante à Saül, comme on peut le lire au verset 7. Mais c'est à ce moment-là que les choses changent. À ce moment-là que Saül ne va pas en effet suivre le commandement de Dieu jusqu'au bout. Alors qu'il devait faire mourir tous les Amalécites, tout le bétail, Saül épargna leur roi, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes grasses, les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon. Il tua en réalité le peuple et seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Tout ce qu'il considérait en définitive comme sans valeur. Saül a alors cherché à assouvir son propre désir. Il a fait preuve de ce que nous pourrions appeler une obéissance partielle. En choisissant lui-même qui devait mourir ou non, Saül décida de suivre sa propre volonté, au détriment de l'obéissance à la parole de Dieu. Il a décidé d'appliquer sa propre justice et non celle de Dieu. Et donc choisir de suivre sa volonté l'amena donc tout simplement à désobéir. Parce que oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une obéissance partielle équivaut en réalité à pas d'obéissance du tout. Et bien évidemment, cette désobéissance devait impliquer une suite, notamment une réaction de la part de Dieu, mais on verra aussi de Samuel, parce que Dieu ne pouvait pas en effet laisser passer cela sans réagir. Et sa réaction se résume en ces trois mots qu'il prononce à Samuel, « Je me repens ». Réaction qu'on peut lire aussi d'ailleurs un peu plus loin, au verset 35, que je n'ai pas lu ce matin, mais qui nous dit aussi, voilà, « Car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. » Une réaction qui pourtant semble aussi difficile à concilier avec un autre verset, toujours du même chapitre, qui est le verset 29, qui nous dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point, et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Ça fait presque l'inverse, on dirait. Et d'un point de vue humain, ce qu'il faut comprendre, c'est que le repentir, c'est un vif regret, éprouvé pour une faute commise. Mais comme on vient de le lire aussi, justement dans le dernier verset que j'ai cité, Dieu n'est pas un homme. Et Dieu sait d'avance ce qui va arriver. Dieu est parfait et a un plan parfait. Ésaïe 46, verset 10, nous dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Lorsque Dieu dit donc « Je me repens », il ne s'agit pas ici de l'expression d'un regret, d'une faute, mais d'un repentir dans le sens où il reprend à un homme ce qu'il lui a donné. Il reprend à Saül la royauté précédemment accordée. La repentance en Dieu n'est pas, comme c'est le cas en nous, un changement d'avis, mais un changement de dispensation. Ce mot ne signifie pas que Dieu change de dessein, mais que Saül ne répond plus à son dessein. Dieu va le laisser finir son règne, mais désormais plus en tant que représentant du peuple de Dieu lui-même. Ce sera désormais David, le jeune berger que Samuel ira oindre comme roi. Alors, face à cette décision, la réaction de Samuel fut la suivante, c'est qu'il fut irrité et cria sa douleur toute la nuit. Une réaction qui peut être un exemple pour nous. Dans un commentaire que j'ai pu lire, il était écrit « Le rejet des pécheurs et le chagrin des bonnes personnes ». En effet, Dieu ne se réjouit pas de devoir rejeter un homme, et donc par là de leur mort aussi assurée. Et nous ne devrions pas non plus le faire. Et Samuel ne s'est pas réjoui justement que Saül soit rejeté, alors que Saül lui avait succédé, et il cria donc à l'Éternel toute la nuit dans la prière. C'est une attitude de cœur aussi que nous devons demander au Seigneur dans notre vie au quotidien. Et maintenant qu'il s'est entretenu avec Dieu, Samuel se doit d'aller à la rencontre de Saül pour que celui-ci soit appelé à rendre compte justement de cette désobéissance. C'est les versets suivants jusqu'au verset 21. Alors si jamais Samuel avait même besoin d'être conforté dans le fait qu'il devait aller parler à Saül, ce qui aurait pu arriver car c'est jamais facile d'aller faire face à quelqu'un pour lui dire qu'il a mal agi, lui annoncer les conséquences de ses actes, eh bien un autre détail est remonté à Samuel qui est que un monument avait été érigé en l'honneur de Saül. Encore une nouvelle preuve de l'orgueil croissant de Saül et de la reconnaissance publique que lui recherchait, pour lui, pour se glorifier. Et donc on voit Samuel arriver devant Saül pour le confronter à sa désobéissance. Et ce dernier a eu alors une réaction un peu surprenante, avant même que Samuel puisse s'exprimer. Il proclama avec un certain enthousiasme, pourrait-on dire, ou même sans aucune gêne, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Des paroles qui nous montrent un homme plein d'assurance, presque un homme qui pourrait prétendre ou penser même que Dieu lui était peut-être désormais redevable pour le bon service qu'il avait rendu. Mais Dieu n'est et ne sera jamais débiteur envers qui que ce soit. Dieu n'a pas de dette envers nous. Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ? Le verset 14. Alors si vous imaginiez cette scène dans un film, on pourrait presque trouver cette réponse de Samuel comme un peu humoristique. Quelqu'un qui dit quelque chose, un petit bruit derrière, ça peut faire un peu sourire, voilà, tellement il se fait prendre à son propre mensonge. Mais cette réponse vraiment ne fait que confronter davantage Saül à sa désobéissance et à son mensonge, justement. Et ensuite, bien que Saül dût reconnaître donc que ses animaux furent pris aux Amalécites, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche encore ensuite à argumenter, à se trouver des excuses. S'il a désobéi, c'est de la faute du peuple. Il n'y peut rien. Ce n'est pas moi, c'est à cause des autres. Peut-être que cette expression peut faire écho encore aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'on peut encore l'entendre aujourd'hui, voire peut-être même la prononcer. Mes frères et sœurs, Saül n'était-il pas roi ? Pensez-vous vraiment que le peuple ait pu le faire sans qu'il le sache ou sans son accord ? Dieu lui avait donné des ordres, et lui, en tant que roi, était responsable de donner les mêmes ordres au peuple, et de veiller à ce qu'il soit suivi. Dieu le rend donc à juste titre responsable de toute cette affaire. Mais c'est pour les sacrifier à l'Éternel. S'ils l'ont fait, s'ils ont gardé ces animaux, c'est donc pour une bonne cause. Avec une bonne intention, faire une offrande à Dieu. Bien évidemment, il s'agissait d'un faux plaidoyer, car Saül et le peuple cherchaient à en retirer un profit en épargnant le bétail. Mais de toute façon, même si ça avait été vrai, est-ce qu'une bonne intention peut justifier une mauvaise action ou un acte de désobéissance? Et cette discussion ne s'arrête toujours pas là. Même quand Samuel lui expose à nouveau la clarté des ordres qu'il devait exécuter, qui lui rappelle une nouvelle fois que c'est Dieu qui a fait de lui un roi, qui lui doit donc tout, mais aussi qui lui rappelle ce que Dieu attendait de lui, à quel point il était inexcusable de vouloir tirer profit de cette expédition et de s'en enrichir, Saül insiste encore. « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. » Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Saül répète sa justification. Il ajoute parmi les exemples de son obéissance qu'il a ramené Agag vivant. Il n'a pas peur de le dire. Comme s'il prétend que c'est peut-être aussi bon que s'il l'avait tué. Et malheureusement, c'est bien souvent ce qui arrive encore aujourd'hui. Nos cœurs charnels, pécheurs, pensent s'excuser des commandements de Dieu avec nos propres équivalents. Mais tout dans l'attitude de Saül nous montre que ce qui le préoccupe réellement, c'est de se disculper et d'affermir son pouvoir royal sur le peuple. Toute sa démarche pointe vers lui-même, vers son ego, et est typique du pécheur qui ne se préoccupe pas de se repentir. Et on arrive alors au verset 22, au message fort et 23, message fort de ce passage, qui est la conséquence de cette désobéissance. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors Samuel proclame ici cette vérité fondamentale que faire des actes de piété, des cérémonies, des rites, mais sans faire la volonté de Dieu, ne sert à rien. Une obéissance à Dieu nous recommande à lui plus que toutes les cérémonies que nous pourrions réaliser. Osée au chapitre 6, verset 6 nous dit « Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Un autre commentaire que j'ai pu lire disait aussi « Dans les sacrifices, c'est la chair étrangère des animaux destitués de raison qui est sacrifiée, mais dans l'obéissance, c'est la volonté propre, et voilà le vrai sacrifice raisonnable. » Romains chapitre 12 nous dit aussi « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Oui, rien n'est plus agréable à Dieu qu'une obéissance humble, sincère et consciencieuse à sa volonté, plus agréable et plus acceptable que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Ce verset 23 nous présente une seconde vérité. Nous vivons dans une société qui redéfinit et classifie le péché à sa convenance. Certaines choses seraient moins graves que d'autres. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit péché. La rébellion est aussi coupable que la participation à la divination et chercher à résister, à faire sa propre volonté, équivaut à adorer de faux dieux. La parole de Dieu nous enseigne sur la suprématie, la souveraineté, la puissance de Dieu. Comment des hommes, qui ne sont que des êtres au final insignifiants, vivant sur cette terre pour peu de temps, peuvent-ils se révolter contre leur Créateur, contre le Dieu éternel? Quelle marque d'insolence, de présomption et d'arrogance. Ce verset rappelle ce qui arrive aux hommes qui résistent, qui nient la souveraineté de Dieu justement, qui recherchent leur indépendance, voire même qui ne se limitent pas à rejeter la volonté de Dieu, mais qui essayent presque de la soumettre à la leur. Eh bien, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ce qui a été dit à Saül. Alors frères et sœurs, je viens de parcourir rapidement avec vous tous ces versets. Mais alors que retenir et quelles applications pourrions-nous en retirer aujourd'hui pour nous? Il y en a sûrement d'autres, mais je vais vous en proposer 6 ce matin. 6 points à retenir ou à mettre en pratique. Le premier point que je vous invite à retenir, c'est que nous devons obéir à Dieu tout simplement parce qu'il est Dieu et que nous ne le sommes pas. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ? Au verset 17. Même un roi terrestre n'est rien face à Dieu. Alors soumettons nos vies à Dieu et à sa toute-puissance. Dites à Dieu dès aujourd'hui, une expression qu'on connaît peut-être souvent aussi dans le monde, mais qui est « tes désirs sont des ordres ». Ou encore, peut-être empruntons ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, qui est, qu'on peut lire dans les évangiles, qui est « toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». La seconde application pour notre vie est la suivante. Pas de compromis avec Dieu. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de tentations qui amènent l'homme à faire des compromis, y compris pour les chrétiens. Il est difficile de ne pas abandonner ses convictions dès lors que le compromis semble nous être plus bénéfique, plus avantageux. Continuons-nous à tenir nos convictions d'ailleurs dès lors que celles-ci sont défiées par quelqu'un que l'on admire, que l'on craint ? Arrivons-nous à continuer à nous opposer peut-être à une certaine malhonnêteté, à une certaine corruption, si pour cela nous devons nous opposer à peut-être notre employeur, notre patron, au risque peut-être de perdre notre emploi ? Nous sommes tous d'accord, je pense, pour dire que le péché doit être puni, mais continuons-nous à le dire lorsqu'il s'agit des péchés de nos propres enfants ? Sommes-nous plus indulgents ? Le monde est aussi plein de religions, de philosophies, et beaucoup se servent de portions de la Bible comme base de la vérité que renferment leurs préceptes. Mais le reste des paroles de Dieu, ils le mettent de côté, les considérant comme étant de peu d'importance, comme dépassées ou d'aucune utilité pour l'homme moderne. Frères et sœurs, y a-t-il un domaine de notre vie, de votre vie, dans votre travail, dans la vie de famille, dans vos projets, dans l'utilisation de votre temps, de votre argent, de vos dons, où vous avez été peut-être appelé à servir, à donner, pour Dieu, et pourtant pour lequel vous êtes tenté aujourd'hui de répondre par « oui, je vais le faire », tout du moins une partie du chemin, une partie peut-être seulement de ce que Dieu, ce pourquoi Dieu m'a appelé. Eh bien, ne soyons pas comme Saül, n'obéissons pas d'une manière partielle ou sélective. En choisissant sa royauté terrestre, Saül a été rejeté de Dieu pour l'éternité. Souvenons-nous que le résultat du compromis sera toujours la perte de quelque chose, d'une chose précieuse, en échange d'un désir coupable, de quelque chose de temporaire qui ne nous satisfera jamais. Et à l'inverse, choisir Christ nous fait gagner quelque chose de précieux, le salut, une relation avec Dieu, avec Christ, en échange de quelque chose qui, lui, pour le coup, est sans valeur, notre péché et notre propre justice. Donc oui, demandons à Dieu de mettre en lumière les domaines dans lesquels nous sommes tentés de faire des compromis. Demandons-lui la grâce, la force, pour ne pas tomber dans ces compromis. Et obéissons à Dieu de tout notre cœur. Faisons-lui confiance, parce que Dieu demeurera fidèle dans tout ce qu'il nous appelle à faire. Et mon troisième point complète celui-ci, le précédent, et sera le suivant, ayons la crainte de l'Éternel. Je dirais même, ayons uniquement la crainte de l'Éternel. On l'a lu tout à l'heure dans le verset 24, Saül a désobéi parce qu'il craignait le peuple au lieu de Dieu. La voix du peuple avait plus d'effet sur lui que celle de Dieu. Il craignait plus le mécontentement du peuple que le mécontentement de Dieu. Il craignait plus les conséquences humaines de l'obéissance que les conséquences divines de la désobéissance. Vouloir plaire au monde nous amène à être sélectifs vis-à-vis des commandements de Dieu, et nous ignorons sa gloire et voulons nous exalter nous au lieu d'exalter Dieu. Mais parfois c'est plus subtil. On veut que Dieu soit exalté. Mais le problème c'est qu'on veut aussi l'être. Pas forcément au-dessus de Dieu, mais quand même l'être. On a toujours dans notre cœur un petit désir quand même pour soi-même. Et c'est toujours important de se dire que voilà, les gens pensent du bien de nous quand même. Ésaïe, chapitre 51, versets 12 et 13 nous dit « C'est moi ». L'Éternel, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme, alors qu'il va mourir, et du Fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'herbe ? Et tu oublierais l'Éternel, celui qui t'a fait ? Dans l'évangile de Matthieu, on peut lire aussi « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer. » Si vous craignez l'homme, vous avez commencé à renier la sainteté, la valeur de Dieu et de son Fils, Jésus. Dieu est infiniment plus fort que l'homme. Il est infiniment plus sage et infiniment plus rempli de récompenses et de joie. Se détourner de lui par crainte de ce que l'homme peut faire ou dire, c'est ignorer tout ce que Dieu promet d'être pour ceux qui le craignent. C'est un peu comme une insulte que nous lui ferions. Et dans une telle insulte, Dieu ne peut prendre aucun plaisir. Alors que si nous entendons les promesses de Dieu, que nous lui faisons confiance avec courage, craignant le reproche que notre incrédulité nous apporte devant Dieu, alors Dieu est grandement honoré. Et en cela, il prend beaucoup plaisir. Être obéissant à Dieu, même sans savoir où mène cette obéissance. C'est la quatrième leçon importante que je vous invite à retenir pour notre vie chrétienne, parce que cela vous gardera et vous protégera. Même si nous ne comprenons pas toujours la volonté de Dieu, le pourquoi de ses commandements, rappelons-nous toujours que même quand la foi vacille, l'obéissance reste la seule voie vers la volonté parfaite de Dieu pour notre vie et les promesses divines pour nous. Le psaume 25 nous montre les grâces que l'Éternel nous promet en récompense de cette obéissance. L'Éternel assure des sentiers remplis de miséricorde, de fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est le verset 10 de ce psaume. Ayons toujours foi en la parole de Dieu et vivons selon ses ordres, plutôt que selon les circonstances qui nous entourent, plutôt que selon les occasions que nous rencontrons. La sécurité ne peut se trouver que dans l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire en une foi qui s'appuie sur la promesse que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Sachons reconnaître nos fautes et nos actes de désobéissance. C'est l'avant-dernier point sur lequel je voulais encore insister ce matin. Ne cherchons pas toujours à nous trouver des excuses. C'est un réflexe malheureusement très humain. Et je dois l'avouer, combien de fois ai-je pu entendre même mon épouse me faire remarquer que je pouvais facilement prétendre que ce n'était jamais réellement à cause de moi ou de ma faute. Merci à mon épouse que le Seigneur a mis à mes côtés pour m'ouvrir parfois un peu les yeux là-dessus. Mais devant Dieu, notre réflexe est souvent le même. Vouloir négocier la gravité de notre péché, au lieu de nous attrister de l'avoir offensé. Comme si nos arguments pouvaient réduire notre faute, devant la justice et la sainteté de notre Dieu. Au lieu d'être un pécheur confessant et gracié, nous nous obstinons alors à être un pécheur qui négocie, et donc qui ne se repent pas, ou pas entièrement, et qui reste finalement emmêlé dans son propre péché. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. On livre à Dieu « ce n'est pas si grave », alors que Dieu attend « pardonne-moi Seigneur, je suis pécheur et j'ai besoin de ta grâce ». Frères et sœurs, personne n'obéit toujours parfaitement à Dieu, et encore une fois, moi le premier. Et Dieu le savait, Dieu le sait encore aujourd'hui, et c'est pour cela, je pense aussi, qu'il nous a donné ces textes. Un peu comme des avertisseurs sonores, comme quelque chose qui va se déclencher. Pour nous rappeler justement de ne pas être complaisant avec une certaine obéissance sélective, pour nous rappeler qu'il ne sera jamais possible d'échapper au jugement du Seigneur en cherchant à nous justifier aussi nous-mêmes. Mais que la seule façon d'être sauvé, c'est de placer nos désobéissances devant Dieu. Lui demander pardon encore une fois et nous repentir. Et alors nous pourrons nous relever, nous pourrons repartir sur ce chemin avec Dieu, en essayant de nouveau de lui obéir. Et si nous avons cette attitude de cœur, de repentance, Dieu nous aidera à lui obéir davantage. Ça ne sera pas en un jour, en une fois, mais par persévérance. Et foi en lui, il nous transformera. Et alors je pense que nous serons comme ce qui nous est aussi montré dans l'évangile de Luc au chapitre 6, où il est écrit que tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement, et le torrent s'est jeté contre elle. Et aussitôt elle est tombée, la ruine de cette maison a été grande. Alors le sixième et dernier point, ce sera ma conclusion aussi, est plutôt un complément au texte qu'on a partagé ce matin. Ce complément est le suivant, « Rappelez-vous toujours que vous n'obéissez pas pour établir la relation. » Jésus a fait les choses. Il a instauré la relation avant de nous demander d'obéir. Christ a tout accompli en vivant une vie parfaite à notre place, en donnant sa vie pour nous sur la croix, en ressuscitant des morts pour le salut de tous ceux qui croient en lui et placent leur confiance en lui. Et c'est à partir de là, de cette réconciliation avec lui, de cette relation qu'il a donc lui-même restaurée, qu'il nous demande alors de lui obéir en retour. Et ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Notre volonté de lui obéir, d'une obéissance pleine et entière, provient alors de notre volonté de lui plaire et de lui apporter reconnaissance, gloire et honneur. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne dans votre vie et vous aide justement à lui obéir tel que lui le souhaite et que votre vie soit vraiment dirigée par lui. Amen.